culture.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Sud, nous voici de nouveau dans un nouvel épisode en culture. Alors, comme à chaque fois, hein, nous sommes avec Lou.
Bonjour, bonjour à tous,
Isabelle,
bonjour à toutes.
Bonjour.
Coralie.
Bonjour tout le monde.
Et Nathan à la technique. Il est à la technique, alors il ne dit rien. C'est comme ça. Alors, je vois que Coralie est sur les starting blocks, le livre ouvert à la première page, enfin, la première part du texte.
Exactement.
C'est alors, la bouchée, hein, si je comprends bien.
Exactement, c'est ça, voilà. Donc, la dernière fois, on vous parlait de Roald Dahl et de son univers un peu particulier avec Coup de Gigot. Et donc, j'ai pris Coup de Gigot et autres histoires à faire peur. Alors, vous connaissez déjà la fin de Coup de Gigot si vous nous suivez attentivement. Si pas, je vous invite à le commander en bibliothèque parce qu'il est vraiment génial. Et donc, je vous propose un petit extrait de la deuxième nouvelle de ce petit recueil qui s'appelle « Tous les chemins mènent au ciel ». Toute sa vie, Madame Foster avait souffert d'une crainte presque pathologique de manquer le train, l'avion, le bateau ou même le lever du rideau de théâtre. Mis à part cette hantise, ce n'était pas une femme particulièrement nerveuse. Seule la pensée d'être en retard la mettait dans un état tel qu'elle en conservait un tic. Un tout petit minuscule au coin de l'œil gauche se mettait à tressauter, ce qui lui donnait l'air de cligner constamment de l'œil. Et cela ne voulait jamais s'arrêter avant le départ sans histoire, du train, du bateau, etc. Et cela durait encore près d'une heure après qu'elle eut pris le moyen de transport en question. Il est extraordinaire de constater comme, chez certaines personnes, la peur de manquer un train peut dégénérer en obsession. Une demi-heure au moins avant le moment de quitter la maison pour aller à la gare, Madame Foster sortait de l'ascenseur, prête à partir avec son chapeau, son manteau et ses gants. Incapable de s'asseoir, elle voltait de chambre en chambre jusqu'à l'apparition de son mari, dont la voix calme et sèche suggérait que c'était peut-être bien le moment de partir. Monsieur Foster avait certainement des raisons d'être irrité par les manies de sa femme, mais il n'avait pas d'excuse à augmenter ses tortures en la faisant attendre sans nécessité. Remarquez bien qu'il ne le faisait peut-être pas tout à fait à dessein, mais la chose se répétait avec une telle régularité qu'il était difficile de ne pas soupçonner de le faire exprès. Et pourtant, la pauvre dame n'aurait jamais osé le rappeler à l'ordre ou lui demander simplement de se dépêcher. Elle était bien trop dressée pour cela. Et lui, il le savait parfaitement. Il devait savoir également que cette façon d'attendre le dernier moment pouvait l'amener jusqu'à l'hystérie. À une ou deux occasions au cours des dernières années, il avait eu presque l'air de vouloir manquer le train, rien que pour augmenter les souffrances de la pauvre femme.
Oui, moi je connais la fin.
On voit bien que ça ne va pas bien finir.
Ça ne finit pas très bien, non.
En effet, c'est un peu le principe de toutes ces petites histoires. Il y en a 6 au total dans ce recueil-ci. Ce sont des histoires où on explique un petit peu le contexte qui fait que cela mène au drame. Alors, ce qui est très sympathique, c'est que ça reste du drame pour enfants, donc c'est pas spécialement violent, c'est pas spécialement effrayant, et Roald Dahl écrit avec énormément d'humour, hein. C'est quand même un grand-père de l'humour, et donc, voilà, c'est des petites nouvelles horrifiques très sympathiques, je trouve, à proposer aux enfants.
Et qui peuvent, c'est ça qui est chouette, c'est que ça peut plaire aux enfants, effectivement, mais aussi aux adultes. Et c'est vraiment le type de lecture qu'on peut partager avec les enfants qui nous entourent. Et on peut en discuter ou simplement se dire est-ce que tu as aimé ou pas aimé.
Oui, voilà, franchement.
Et le format de la nouvelle est chouette aussi parce que même si on est entouré de petits lecteurs, pas par l'âge, mais par la quantité, ça ne va pas les rebuter parce que ce n'est pas trop long.
Oui, non, effectivement, voilà. Donc, celle-ci, elle doit faire quoi, une petite quinzaine de pages.
Ouais, c'est ça.
Pas beaucoup plus. Donc, voilà, ça se lit très,
très vite. Et quand on commence l'histoire, le suspense se met tout de suite en place et donc on la finit de toute façon.
Oui, et voilà. On ne se rend même pas compte qu'on a lu déjà 15 pages.
Oui. Voilà, franchement, si jamais vous avez des gens qui sont un peu rebutés par la lecture, mais qui aiment bien les choses un petit peu tendues, un peu suspense, pourquoi pas leur proposer une nouvelle de Coup de Gigot. La première est très très bien, un Coup de Gigot est vraiment très très bien. Et les suivantes sont beaucoup moins connues, mais elles sont tout aussi chouettes.
Qu'est-ce qu'il y a dans les suivantes ?
Alors, il y a Tous les chemins mènent au ciel.
Oui.
Il y a La Logeuse.
Oui, c'est une, elle est très bien aussi.
Elle est très très chouette. Il y a William et Marie.
Ah oui.
Et hop, je retrouve la dernière, parce que moi je ne connaissais que ces 5-là. pour moi, la nouvelle est inédite. Ah non, c'est celle-là, c'est la dernière, c'est William et Marie.
D'accord.
Voilà. Surtout,
c'est un très bon choix. Enfin,
Oui, c'est une excellente conclusion, effectivement, pour ce petit recueil. Donc voilà, et si jamais vous aimez Roald Dahl, je pense qu'à la bibliothèque de Florentville, tu dois en avoir une sacrée quantité.
On en a beaucoup, oui. Coup de gigot aussi, et on l'a même en plusieurs exemplaires, parce qu'il est souvent proposé en lecture scolaire. Mais donc ça veut dire que n'hésitez pas à venir faire les curieux.
Ça va donner des bonnes idées aux enfants, cette affaire.
Oui, c'est ça.
Voilà, je pense que les plus connus, ça doit être Charlie et la chocolaterie et peut-être Mathilda.
Oui.
Et le bon gros géant aussi.
Et le bon gros géant.
Qui ont tous les trois été adaptés au cinéma.
C'est ça, hein.
Oui. Charlie et la chocolaterie à deux reprises d'ailleurs.
Ah bon.
Oui, il y a une version qui est sortie dans les années 70 et une beaucoup plus récente avec Johnny Depp.
C'est ça, c'est celle-là.
Dans les années 2000. Oui, effectivement.
Oui, Coup du Gueux et Hitchcock aussi. Hein.
Ah, ils ont été adaptés aussi, ben ça je ne savais pas.
C'est Roald Dahl lui-même qui a fait la mise en scène, je pense.
C'est ça qui est génial dans En Culture, c'est que vous apprenez et nous apprenons aussi les uns des autres. L'émulsion de la culture, si c'est pas magnifique.
Voilà. Tout ça pour le plus grand profit de nos auditeurs et auditrices bien-aimés.
Oui, et je viens de voir le titre Sacrée Sorcière qui a aussi récemment été adapté avec Anna Taoué dans le rôle de la grande méchante sorcière. Et elle le joue divinement bien.
Et si je ne m'abuse, en BD par Pénélope Bagieu. Est-ce que je me trompe?
Ah, c'est possible, j'étais pas au courant. Mais ça, du coup, je serais curieuse d'aller voir.
Il me semble.
Émulsion culturelle.
En BD.
On le disait.
C'est magnifique.
Donc voilà, moi j'ai fini de vous présenter Coup de Gigot et donc je vous propose de sautiller un petit peu dans le temps. On va écouter Timelapse de The Fat Rat.
Alors, on va changer un peu l'ordre des habitudes. Là, je vais vous faire écouter une petite musique pour commencer. Oh. Voilà, alors je ne sais pas si les auditeurs, les auditrices ont reconnu la bande originale d'un film. Ici, je pense que personne ne connaît ça. Hein. C'est donc un film qui s'intitule The Blob. Et c'est dans sa version de 1958. Il y a eu un remake en 1988. Alors c'est un film d'horreur, mais ce n'est pas le film d'horreur qui nous intéresse, quoique c'est un film, donc ça pourrait faire le sujet d'une rubrique de En Culture. Mais c'est le personnage principal, enfin si on peut vraiment parler de principal. Enfin, de personnages, en tous les cas. Alors, c'est une espèce de grosse masse gélatineuse qui mange à peu près tout ce qu'il y a sur son passage. Donc, elle avale tous les humains, les voitures, les...
Ah oui, elle est grosse. Ah, oui,
moi, elle grandit de 1000 fois en... Enfin, non, dans la version de 1988, elle grandit de 2000 fois en quelques jours. C'était plus raisonnable en 1958, il triplait de volume en un jour.
Voilà. C'est déjà pas mal.
Quand même beaucoup.
Alors pourquoi parler de Blob ? Eh bien parce que en fait le Blob est le personnage principal du premier chapitre de l'intelligence du vivant. Mmh. Non, je n'invente rien. C'est une biologiste. Enfin, elle est au départ myrmécologue, hein, ce qui est qui s'y connaît en fourmis.
Ah. Voilà. Mais alors myrmécologue.
Myrmécologue, oui. Fourmi.
Oui, c'est logique.
On aurait pu le deviner tout de suite.
Fournir enfin, mécologue.
Exactement.
Ben voilà.
Exactement.
Vous savez le cri de la fourmi, hein ? Elle gronde.
Ah ben oui, bien sûr.
Parce que le four micro-ondes.
C'est ça.
Passons.
Oui, mais oui, Jean-Marc.
Revenons au blob.
Revenons au blob.
Donc, cette dame s'appelle Audrey Dussautour. S'est découvert une passion pour... Et attendez que je retrouve son petit nom. Comment s'appelle-t-il encore ? C'est un myxomycète. Hein. Et je ne trouve pas son nom. Je l'avais pourtant préparé. Physarium polycéphalum. Voilà. Mmh. Alors, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. La ressemblance avec le blob vient du fait que c'est une masse gélatineuse qui grandit très vite et qui absorbe sur son passage des champignons, des bactéries, des choses comme ça, en aucun cas les humains. Et donc, cette dame a étudié c'est un unicellulaire constitué d'une seule cellule. Donc, si vous y réfléchissez bien, s'il y a une seule cellule, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de neurones. Hein. Cellules nerveuses ne sont présentes que chez des êtres avec plusieurs cellules, dont certaines sont spécialisées pour transmettre l'influx nerveux. Donc lui, le blob n'a pas de cellules nerveuses. Et pourtant, il est capable d'apprendre.
Alors, ça, c'est fort.
Oui. Il est tout à fait possible, capable d'apprendre. Ça. Il est capable de trouver le chemin le plus court en deux points. Et il est aussi capable de partager ses connaissances. Donc c'est quelque chose de tout à fait hallucinant qui a été démontré en laboratoire. Je sais que ça ressemble un peu à du fantastique ou à de la science-fiction, mais c'est de la science tout court. Alors, il y a un chercheur japonais au nom difficilement prononçable. Il a fait une expérience, il a mis une carte du Japon, et sur les grandes villes, il a mis un grain d'avoine. Mm-hmm. Parce que c'est la nourriture favorite du blob. Enfin, du myxomycète ou du physarium polycéphalum. Là.
Et, c'est plus mignon, hein.
Oui. C'est bien. On retient aussi plus facilement.
Oui.
Et il y avait déjà des expériences qui avaient été faites préalablement, encore une fois, chez des Japonais, parce qu'il n'y a que les Japonais qui peuvent imaginer qu'il y a de l'intelligence dans un être unicellulaire. Heureusement qu'ils sont là, parce que maintenant, ça a été démontré. Et donc, le blob, on met un labyrinthe, relativement compliqué quand même, hein. Et puis un grain d'avoine à l'entrée, un grain d'avoine à la sortie, et puis on pose le blob dessus. Alors, dans un premier temps, il envahit tout, et puis il ne reste que des chemins qui relient les deux grains d'avoine par le chemin le plus court. Donc ça a été répété de multiples fois. Alors là, il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier, de quelqu'un sans cerveau qui est capable de trouver un chemin le plus court. Alors un autre japonais, je pense, s'est amusé, comme je le disais, à mettre une carte du Japon, un grain d'avoine sur les plus grandes villes, un blob sur la carte. Il suffit de laisser faire, hein, il triple de volume, il peut facilement remplir une pièce s'il y a de la nourriture. Et eh bien, le blob a relié les grandes villes japonaises entre elles par des chemins plus courts, plus efficaces que ce que les ingénieurs japonais du chemin de fer ont fait. Je trouve ça quand même vraiment tout à fait extraordinaire.
Mais Jean-Marie, moi, quand je t'écoute, et tu parles de ce blob qui peut tripler de volume et de ça, mais c'est vrai tout ce que tu nous racontes?
Ah, bien sûr, oui, oui, non, c'est un bouquin qui vient de la bibliothèque de Florentville, voyons.
Ah, pardon, alors si ça vient de la bibliothèque de Florentville, oui, c'est tout à fait sérieux, mais c'est quand même très, très surprenant.
Donc, c'est une collaboration entre France Inter et Flammarion. Alors, je ne vous ai pas dit le titre exact, c'est « L'intelligence du vivant, 10 scientifiques racontent ».
Et donc, il y a eu ce film sur le blob en 1958, et à part ça, on parle du blob à quel moment? Il est où? Il vit où?
Ah, le vrai blob du film vient d'un extraterrestre.
D'accord, voilà. Et le blob du livre, il est dans la mer?
Il y en a dans les forêts, il y en a dans les jardins, il y en a...
Mais c'est tout petit.
Mais c'est quand même tout petit, hein, quand il triple de volume.
Oui, ça reste petit.
Oui, un blob élevé en laboratoire a été enregistré au Guinness des records. Il faisait 10 mètres carrés.
Ah, quand même.
C'est quand même beaucoup, ça.
Bah, 10 mètres carrés, c'est la taille d'une chambre.
On peut croiser... Il est végétarien. Apparemment, il aime...
Oui, mais si on le croise en forêt... Mais pas...
Alors, le mieux, hein, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous tapez dans le moteur de recherche DuckDuckGo, d'ailleurs, plutôt que Google. Ça respectera un peu mieux votre vie privée. Myxomycète, hein, avec deux Y. Myxomycète. Et le blob fait partie des myxomycètes. Et comme ça, vous aurez des photos de...
Oui,
de
parce que là, moi, je suis en train de l'imaginer un peu comme une barbe à papa, mais en slime.
Ah oui, oui, oui.
Pas comme une barbe à papa.
Disons que ça ressemble assez fortement à...
Pas comme une barbe à papa. Si, les barbes à... Comment les barbes à...
Oui,
les barbes à papa.
Les barbes à papa.
Non, c'est beaucoup plus plat que ça. Hein.
Ah, voilà.
Parce que ça s'étale.
C'est comme une tache.
Ça semble une amibe. Vous voyez ce que c'est, une amibe?
Oui.
Un être unicellulaire, c'est un peu comme ça.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une amibe, imaginez une tache de café, mais en tout petit. Voilà. C'est tout plat. C'est tout plat.
Ou bien, un blob, ça va ressembler à un œuf, pas cuit. Si on prend un œuf, on le mélange, et puis on l'étale sur la table, le blob ressemble à ça. À part qu'il est vivant, qu'il est doté...
Et qu'il est intelligent.
D'une seule... Oui, c'est tout à fait incroyable.
C'est impressionnant.
Tout en n'ayant pas de cerveau, hein. Ça c'est quand même...
Oui, c'est ça qui est fascinant. Alors, voilà, c'est vraiment un bouquin merveilleux, parce que, enfin, moi je me suis émerveillé...
Tu as raconté plusieurs anecdotes.
C'est vraiment... Alors, elle parle... Enfin, c'est une enquête de Fabienne Chauvière. Et donc, il y a 10 scientifiques, hein, comme le titre l'indique. Alors, ça parle de l'intelligence des plantes, des animaux, des poulpes, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les champignons aussi. Alors, le biomimétisme. Donc, en fait, ce sont des gens qui copient le vivant pour inventer des structures ou des techniques.
Oui, ça se fait depuis longtemps, hein, et de plus en plus.
Il y a un Italien célèbre, Stefano Mancuso, qui a écrit un livre sur l'inventivité des plantes. Et alors, il y a une plante dont j'ai oublié le nom, mais ses graines pénètrent dans le sol jusqu'à 20 ou 30 cm sans énergie. Alors, ça, on se dit, comment est-ce possible? Et en fait, c'est simplement, ça absorbe l'énergie, donc ça change un peu de forme. Ça absorbe l'humidité, pardon. Et avec les variations d'humidité du jour et de la nuit, la graine gonfle et rétrécit de manière telle qu'elle rentre dans le sol.
Qu'elle bouge.
Sans la moindre énergie. Et donc, Le laboratoire de Stefano Mancuso, ils ont une collaboration avec l'ESA ou la NASA, je ne sais plus, et donc pour faire des robots sans énergie pour aller chercher des échantillons dans le sol lunaire.
En s'inspirant de cette graine.
Si vous avez vu le dernier Miyazaki, c'est une histoire d'avion. C'est un ingénieur qui est fasciné d'avion et il a dessiné son avion en fonction d'une arête de poisson.
Oui.
Parce qu'il trouvait que la forme était, et donc il s'est inspiré de ça.
Oui.
Donc ce livre parle de tout ça. Alors c'est très facile à lire. Ça se lit vraiment sans aucune connaissance scientifique, enfin je pense. Et il y a beaucoup d'anecdotes vraiment sympas. Et alors on en apprend énormément sur l'intelligence de tout ce petit monde, c'est-à-dire l'intelligence de la vie.
Eh ben, Jean-Marie, tu m'as scotché là.
Tu peux rappeler le titre ?
Oui, l'intelligence du vivant. 10 scientifiques racontent une enquête de Fabienne Chauvière chez Flammarion que l'on trouve à la bibliothèque de Florentville.
Voilà. Très belle découverte.
Oui. Voilà. Oui, ça donne envie.
Alors je pense que Lou a trouvé aussi un livre hein, à la bibliothèque.
Oui, et d'ailleurs, tu peux me rappeler le nom scientifique de ce blob ?
Ah oui, c'est Polycéphalum, Physarium Polycéphalum.
Alors si j'avais dit à Basile Polyphysarium, Physarium Polyphysarum, il m'aurait sûrement sorti la page Wikipédia sur le blog, par cœur. Basile, c'est le petit garçon qui est le héros du roman dont je vais vous parler, qui s'appelle Les Imbattables, et qui a été écrit par Sarah... Alors la prononciation, je ne sais pas, Maght. Ça s'écrit M-A-E-G-H-T. Ça s'écrit Maght à la française ou Maght. À la flamande, oui. C'est paru en 2016 aux éditions Lattès. Et alors, c'est l'histoire d'un couple particulier. Voilà, c'est un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Basile, qui rêve d'avoir un ami parce qu'il est tout seul et qui rêve aussi de visiter la maison de Prévert en Normandie. Et ce petit Basile a une babysitter qui s'appelle Victoire, qui a 23 ans, et qui, après les cours à l'UNIF, s'occupe de lui tous les soirs, parce que sa maman, Basile, elle travaille beaucoup. Alors, elles sont deux personnages tout à fait différents, non seulement par l'âge, mais aussi par leur vision du monde, parce que Basile est surdoué, je vous l'ai déjà dit, le bloc pour lui n'a aucun secret, et il a un savoir encyclopédique qui est à tel point qu'il est rejeté par pratiquement tout le monde, tellement il peut parfois prendre un ton moralisateur. Alors, il divise le monde en ce qui est digne et ce qui n'est pas digne, donc il est très carré. Victoire, elle a 23 ans, mais elle continue à voler dans les magasins, ou alors elle saute les portiques du métro pour ne pas payer son ticket. Disons qu'elle a une vision un peu plus souple de ce qui est digne ou pas digne, et elle laisse aussi l'horoscope décider de son humeur du jour. Voilà. Alors, oui, toutes des personnages tout à fait différents, peut-être un peu trop typés, en tout cas pour le petit garçon. Mais un jour, Basile rate le car qui devait l'emmener en voyage scolaire en Normandie pour voir la maison de Prévert, justement. Alors, Victoire doit le garder toute la semaine, parce que la maman de Basile est à l'étranger. Et cette semaine va vraiment changer leur vie. Alors, je vais vous avouer que pour le moment, je vous avais parlé de Vox la dernière fois, et puis de Dans la forêt, mais qui sont des romans quand même assez lourds. Alors, j'avais vraiment envie d'un roman un peu plus léger, et donc celui-ci a tout à fait bien convenu. Il est lu en quelques heures, il n'est pas très long, il commence mal, mais il finit bien. Je peux vous dire une fois comment ça finit, puisque c'est bien. Et puis, il est léger, comme une comédie. La plume est pleine de tendresse, et c'est joli, c'est peut-être un peu trop invisible, mais c'est très attachant. Alors, je vais vous lire un petit extrait pour vous donner une idée de comment réagit Basile. Donc il est là dans le couloir du métro avec un autre personnage qui est d'ailleurs bien sympathique du roman, qui s'appelle Adam. Et Adam fait glisser 2 pièces pour s'acheter un balisto. Alors Adam tend la barre de balisto à Basile. Et il demande, t'en veux ? Réponse de Basile. La culture de l'huile de palme provoque la destruction d'un 1,5 million d'hectares de forêts amazoniennes par an. Oh, c'est trop bon, dit Adam en croquant la gaufrette chocolatée. Tu rates quelque chose. Vous venez de tuer un orang-outan. Donc voilà, c'est un petit garçon tout à fait déconcertant, mais c'est guéri. Voilà.
Dans le petit monde bleu, on l'aurait appelé le Schtroumpf à lunettes.
Ouais. Oui, exactement, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà, c'est un roman joyeux, donc j'ai choisi une musique joyeuse, Don't Worry, Be Happy.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
Ben oui, c'est une bonne idée. Hein. C'est une musique très sympathique, en fait. Si le livre est aussi joyeux que la musique, ben c'est,
oui,
ça va être bien agréable.
Ne nous inquiétons pas, soyons heureux.
Alors, il est question de manger, c'est ça?
Alors oui, je vois que tu regardes ma bande dessinée avec...
Gourmandise.
Voilà, donc c'est une bande dessinée de Sweeney Boo qui s'appelle Eat and Love Yourself, donc mange et aime-toi, ce qui est très important. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est étudiante, qui est un peu enrobée, qui n'aime pas être enrobée et qui est donc atteinte de boulimie. Donc à chaque contrariété, en fait, à chaque petit souci, on va dire, elle se console dans la nourriture. et ensuite elle va se faire vomir. Parce que c'est comme ça que fonctionne cette maladie qui n'est pas très sympathique à vivre au quotidien. Et donc on suit un peu l'histoire de cette jeune femme. On en apprend un peu plus sur sa vie, alors dans des dessins qui sont tout en rondeur, tout en délicatesse. Et alors elle est particulièrement magnifique parce que elle est ronde, mais c'est une belle ronde avec une longue chevelure bleue. Mmh. Voilà. Pourquoi toujours avoir des personnages avec des cheveux bruns ? Non, celle-ci, elle a des cheveux bleus. Et donc un soir où elle a une énième déconvenue, elle va dans sa petite épicerie préférée et elle tombe sur une offre promotionnelle pour les chocolats Eat and Love Yourself, avec chaque petit chocolat qui comporte des messages d'amour pour soi, en fait. Donc voilà, on a par exemple « Tu es parfaite » ou « Tu es parfait comme tu es ». Voilà,
c'est oui.
« Tu es parfait ou parfaite ». « Tu as le droit à l'amour ». Tu as de la confiance. Tu comptes. Et ce sont des choses qu'on n'entend pas forcément tous les jours. Alors j'en profite pour vous le dire à tous les quatre. Hein, même si toi, Nathan, tu ne parles pas beaucoup, je te le dis aussi. Vous comptez pour moi. Je vous aime énormément et j'aime beaucoup cette émission. Mmh. Chers auditeurs, chères auditrices, vous aussi, vous comptez. Parce que grâce à vous, on continue de vivre un peu tous les jours. Mmh. Voilà, c'était le petit message d'amour du moment.
Mais c'est très bien.
C'est très touchant.
On prend.
Oui, bien sûr.
Merci.
Donc,
merci.
Et voilà, cette jeune femme continue et ce petit chocolat qu'elle goûte a une particularité, c'est qu'il la force à l'introspection. Et donc elle retourne, elle mange un petit carré de chocolat et elle retourne à des moments importants de sa vie, des moments qui l'ont marquée par leur brutalité, par leur tristesse. Et c'est en mangeant ces chocolats qu'elle va se rendre compte que si elle est boulimique, c'est parce qu'elle est triste, parce qu'elle a des problèmes dans sa vie qui ne sont pas réglés et qu'il faut qu'elle règle pour pouvoir aller mieux. Donc c'est vraiment une ode à l'amour pour soi,
oui. Mmh.
Une fable qui invite à un peu d'introspection et à se dire... Pourquoi ça ne va pas ? Est-ce que tu ne peux pas changer le passé, évidemment ? Elle essaye de communiquer avec son passé, mais c'est impossible, c'est un souvenir. Mais si elle ne peut pas changer le passé, elle peut décider de travailler sur l'avenir. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc c'est vraiment tout ce parcours de réalisation du problème qui est abordé dans cette jolie bande dessinée... dessiné par Sweeney Boo, du coup.
C'est voilà. Étonnant, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais dans Les Imbattables, il y a donc la Victoire, le personnage principal avec Basile, souffre d'anorexie, qui est en fait le pendant de la boulimie. Et elle, quand je lui dis la semaine avec Basile va changer sa vie à elle, elle va effectivement retourner dans le passé, et comprendre pourquoi elle a ces épisodes d'anorexie. Elle se force à ne pas manger, en fait, alors qu'elle n'est... Bon, elle est vraiment pas grosse, pas enrobée. Donc, elle est... Voilà. Et donc, il y a quand même, dans le roman dont je vous ai parlé, des sous-thèmes qui sont des thèmes beaucoup plus, je dirais, profonds que ça ne paraît en premier regard. Donc un peu comme la BD que tu viens de nous présenter, oui. Et qui je crois peut aider parfois aussi.
Ah, oui, je suis sûre.
Oui, parce que notamment à la fin, il y a un petit mot qui dit que si jamais on connaît une personne ou qu'on est une personne qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire, que ce soit boulimie ou anorexie, ils font le lien vers un site internet qui est spécialisé et qui est extrêmement bien fait. C'est ffab.fr. Et qui propose en fait une aide à ces personnes parce que, voilà, savoir qu'il y a un problème, c'est bien, mais savoir qu'on peut recevoir de l'aide, ça permet parfois de franchir le pas.
Oui, trouver des solutions quelque part.
Pour la boulimie, pas tellement, mais il y a des sites internet d'influenceuses, comme on dit maintenant. C'est surtout des femmes qui invitent à l'anorexie et donc qui donnent des conseils... en disant qu'en X temps, on ne doit carrément plus rien manger. Quoi.
Mm-hmm. C'est affreux.
Et donc, ce sont des criminels.
C'est affreux.
En fait,
hein. Oui.
Ce qui est extrêmement mauvais, hein, parce que si jamais vous étiez tenté par l'expérience, sachez que quand vous ne mangez pas, votre corps est programmé scientifiquement pour stocker des graisses, justement, en prévision de cette période où il est affamé.
Oui.
Et donc, au lieu de perdre du poids, vous allez prendre du poids et vous allez complètement dérégler votre système parce que quand vous allez recommencer à manger, votre corps va prendre double de calories pour se dire « On ne sait jamais la prochaine fois où on me prive de nourriture.
Mmh. »
Donc voilà, le mieux est, si vous avez des soucis, d'aller voir un diététicien ou une diététicienne ou des nutritionnistes ou des gens professionnels qui pourront vous aider et de manger sain et équilibré. Voilà, rien ne dit que de temps en temps, on ne peut pas manger un petit carré de chocolat noir.
Absolument, et surtout ne pas écouter des influenceuses qui devraient ne rien influencer du tout.
Oui.
Mais surtout quand elles ne sont pas professionnelles. Ouais. Si vous voulez suivre des influenceurs, suivez plutôt des scientifiques qui s'y connaissent.
Prenez des sites professionnels comme celui que tu as cité. À la
ou bien écouter en culture.
Ou bien écouter en culture, où on vous envoie beaucoup d'amour.
Voilà. Et des beaux livres à lire aussi.
C'est toujours sympa.
Bien, oui. Bah, tout ça est très bien, c'est intéressant. Hein.
Oui.
Alors on va peut-être revenir à Marie Fizène, là.
Oui, oui, oui. Ben, Marie Fizène, cette fois-ci, donc on était parti, si vous vous souvenez, sur les routes de l'Exode pendant la guerre 40-45, et donc on va poursuivre la route avec elle vers la France.
Eh bien, on va t'écouter, hein.
Voilà, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi de vous faire écouter La valise de Dorothée, dans laquelle elle met des tas de choses, à la lecture donc de cet extrait de Marie Fizène, une femme de caractère. Pour rappel, nous sommes sur les routes de France, en exode, avec la petite Marie et sa famille. Un jour, à un de ces carrefours où l'armée française se mêlait aux réfugiés et distribuait de l'eau et de la soupe, papa s'écria « Juliette, mais c'est Juliette !»
Le frère et la sœur s'embrassèrent de grand cœur tout en gardant un œil sur les leurs. Oui, c'était tante Juliette avec son mari et sa fille. On se retrouvait le temps d'un bonjour, d'une étreinte, d'un adieu, peut-être pour quelques heures seulement. Nul n'aurait su dire, l'angoisse était permanente. Le trio se traînait, comme tout le monde, dans ce capharnaüm de misère et pour combien de temps. L'oncle Lucien, ancien déporté de 14-18, poussait sa bicyclette chargée pique un âne qui ne pouvait monter. Sa fille le suivait avec son vélo non moins équipé, et tante Juliette s'accrochait tantôt à l'un et à l'autre, voire même aux deux, afin que nul ne s'égare. Des promesses volaient dans l'air, on s'attendrait à l'entrée du prochain village, l'on brandirait sa casquette, agiterait un mouchoir, un tissu quelconque. Plus personne ne voulait se quitter. L'entraide ne se calculait pas. C'est ainsi que tante Juliette demanda l'air suppliant au propriétaire de la charrette s'il accepterait de prendre en surplus une valise, manière de... Armand Dupont s'empressa de dire oui et oui, sachant pourtant que son cheval peinait sous la tâche. Aussitôt, l'oncle Lucien hissa la valise qui parut faire contrepoids et papa s'en étonna. Quelle heure était-il lorsqu'on aperçut notre père debout sur un monticule herbeux, agitant sa casquette, alors que nous arrivions à proximité d'un hameau? Mais notre attelage, lui, n'attendrait pas. Il fallait suivre, sous peine de se perdre. « Je vous rattraperai !» cria-t-il. Maman s'élança d'un bond vers lui, le prit par un bras et saisit à la fois son vélo. « Pas question de se quitter. On verra plus loin, » dit-elle. Mais plus loin, jamais nous n'avons retrouvé le trio tante Juliette. Quant à la valise, elle balançait, cahotait au rythme du perpétuel charroi. À devoir parfois la descendre et la remonter, papa se plaignait chaque fois de son poids anormalement lourd. Un soir, il se décida à l'ouvrir. Muni d'un outil qu'il avait emporté, le frère de la Juliette commença à s'activer. Une fois encore, sa femme l'arrêta. « Tout de même, cette valise n'est pas à toi. » Le jour arriva où Armand Dupont jugea que son équipage épuisé devait en finir. Cela devenait impossible et les autorités françaises poussaient maintenant les réfugiés vers les gares. Nous étions aux environs de 9h. Les transports par train s'organisaient avec énormément de difficultés. L'attente se mesurait au fil des heures, parfois en journée entière. Embarqués quasi de force, à la gare de cette ville, nous avions roulé, roulé et encore roulé vers la fin du monde. Il ne s'arrêterait donc plus de ce train qui nous emportait durant d'interminables heures dans la nuit sans fin, à travers l'immensité de la France. Malheureux petit Belge d'un si petit pays, ne pleurez pas, avait dit un soldat marocain au départ, vous allez avoir le soleil de Provence. Les bagages avaient été soigneusement étiquetés et la valise de ceux, disait-elle aussi, mais au nom de notre père. Toulouse, en Haute-Garonne. Nous sommes en gare de Toulouse. Ô Seigneur, gémirent les adultes, nous ne reverrons jamais la Belgique. Adieu, Florentville. Les larmes coulaient. Elles coulèrent d'autant plus que nous étions le 29 mai au lendemain de la capitulation de Léopold III, roi des Belges. Alors, les soldats français, d'une armée elle-même en déroute, baïonnettes au canon, rassemblèrent les réfugiés tels des pestiférés dans l'immense cour d'une école vétérinaire. Nous étions quelques centaines, assoiffés, rompus par la fatigue, à dormir sur le pavé gonflé d'un soleil infernal à nous terrasser. Ce jour-là, personne n'a mangé. Il n'y avait même pas d'eau pour les bébés et les vieillards, et il s'en suivit des décès. Quant à nos paquets, nos malheureux paquets, qu'étaient-ils devenus ? 8 à 10 jours plus tard, toujours avec nos amis florentvillois, nous étions installés dans un petit village moyenâgeux du Tarn-et-Garonne avec comme chef-lieu la ravissante petite ville de Montauban. Il s'appelait Varennes, ce qui, avec l'accent méridional, donnait à peu près « Varennes ». L'accueil fut remarquable. Cela sécha un peu les pleurs des Belges qui, aux surprises, parlaient la même langue sans leur chaleureux accent, bien entendu. « Parlez un peu le belge !» demandaient curieux les nouveaux amis d'école. Nos parents préféraient nous voir occupés et les enseignants nous recevaient avec beaucoup de gentillesse. Alors, pourquoi ne pas lâcher quelques mots de notre patois gommais ? Il fallait s'amuser, jouer pour oublier. En revanche, leur dialecte nous arrivait en plein dans les gencives sans rien pouvoir non plus y déchiffrer. Un jour, la maîtresse, Mademoiselle Lacombe, religieuse laïque, nous invita à chanter notre hymne national. Margot et moi avons entonné fièrement la brabançonne. La classe était debout. Les filles en tablier noir entouraient ses nouvelles compagnes venues par-delà la frontière à des centaines de kilomètres. Sur notre dernier mot, mademoiselle entama la Marseillaise en invitant du geste à la suivre. Quel désastre ! ces deux gosses arrivés de la légendaire Belgique chantaient à la face des bouches quasi fermées des jeunes Françaises. Aussi, l'après-midi du même jour, on vit entrer monsieur le curé. Margot et moi fûmes invités à reprendre notre numéro. Il est vrai que notre duo avait déjà une longue habitude, nous aurions pu sans mal faire un autre tour de France. Les applaudissements fusèrent, et monsieur le curé, le mutilé de l'ancienne guerre, celle de 14-18, souleva sa soutane qui laissa voir sa jambe de bois serrée par de larges bandes de cuir. Il prit place devant un vieil harmonium presque à faune. La Marseillaise retentit entrecoupée de soupirs et de notes souffreteuses. Rien de triomphaliste. Nous arrivait en écho du fond de cette immense salle le fossé inimaginable de mademoiselle Augustine, la seconde institutrice. C'est que les primaires en bloc cédaient une partie du local à la maternelle, dans une ambiance hétéroclite qui créait en nous l'étonnement et une curiosité sans égale. Une réelle pauvreté transpirait à ras-bord de cette école catholique. Mademoiselle Augustine dégageait de toute sa forte personne une exhalaison empuantie d'ail. Des gousses épluchées qu'elle puisait dans le fond des poches de son cache-poussière, ni noires, ni gris, et rapiécées. Déjà très âgée, affligée d'une myopie qui l'obligeait à parler à visage contre visage, personne n'échappait à l'écœurement de ses relents. Ensuite, monsieur le curé se tourna vers son auditoire et la classe reprit phrase après phrase, mais les jeunes citoyennes françaises ne semblaient nullement pressées de partir aux armes. 2 à 3 semaines plus tard, les écoles étaient réquisitionnées par l'armée. J'avais alors gardé dans mon cartable 2 livres reçus en prêt par l'école, un atlas avec de 6 belles cartes géographiques que je contemplais et décryptais à longueur de journée, et une histoire de France épaisse et cartonnée qui illustrait des gravures des plus évocatrices. En mal de lecture, mais captivée, je me plongeais dans une intarissable découverte. J'ai lu et relu. Quelle tristesse quand ma mère m'obligea à restituer ses biens à mademoiselle Lacombe, alors que j'avais la ferme intention de les ramener en Belgique. Quel beau souvenir j'aurais tiré d'une évacuation forcée et d'un dépouillement complet au retour. En attendant, il nous restait à vagabonder à travers le village de Varennes, souvent en recherchant l'ombre ou à s'essayer à la pêche sur les bords de l'Aveyron. La crique la plus accessible était le domaine des puces qui sautillaient par milliers. Chaque matin, les ménagères arrivaient porteuses de leurs seaux de toilette qu'elles vidaient sur la berge. Les abords de la rivière restaient nauséabonds et malodorants. La Dépêche, gazette quotidienne régionale, flottait en petits bateaux, aussi nombreux que les habitants de Varennes pour avoir servi à... La Dépêche, on s'en souviendra, à voir nos parents qui se penchaient sur ces colonnes aux annonces serrées afin d'y retrouver des réfugiés belges qui recherchaient les leurs. Ainsi, ma mère s'occupa bientôt d'échanger du courrier avec tante Juliette établie avec les siens dans l'Hérault. Il fallait être patient, mais quel plaisir alors de recevoir une lettre de notre tante, et quel bonheur lorsqu'elle écrivit qu'elle venait de retrouver son neveu, mon frère, maintenant démobilisé à Pont-Saint-Esprit. Milicien de cette année même, sa compagnie ne monta pas au front, mais fut repliée sur la France. Louis ne tarda pas à nous rejoindre. Chaque soir, par la fenêtre grande ouverte, les rares radios braillaient les dernières nouvelles de cette damnée guerre, mais aussi la défaite plus que probable de la France. Les villageois se pressaient dans la rue, ils écoutaient debout et commentaient longuement, souvent même avec rage. Les réfugiés restaient prudemment à l'intérieur et tendaient de loin leurs oreilles. Et nos colis? En désespoir de cause, les mères de famille cherchaient à acheter quelques vêtements. Quand après plusieurs semaines d'attente, le maire du village arriva avec la bonne nouvelle. Les bagages se trouvaient en gare de Lexos, à 2 kilomètres de Varennes. Alors nous partîmes en bande et en famille afin d'être certains de rapporter le barda en entier. Le premier colis qui nous tomba entre les mains fut la valise de tante Juliette. Mon père, soudain en colère de voir que cette encombrante valise s'arrivait indemne juste des éraflures, la déposa sans ménagement. « Je l'ouvre, » dit-il. Maman s'interposa une fois de plus. Durant 4 mois, la valise de tante Juliette nous regarda de ses coins et de ses serrures clinquantes, dressées sur un vieux four en briques. Mais le baume au cœur fut de récupérer les vélos. Le mois de septembre nous vit enfin rapatriés par chemin de fer avec tous nos paquets. 3 semaines durant, notre convoi avançait, certes, reculait souvent, puis repartait ou encore attendait. Dans notre wagon à bestiaux se côtoyaient 40 personnes, pas une de plus ni une de moins. La liste était strictement établie afin de passer la ligne de démarcation à Mâcon, sans dommage, sous peine d'arrestation du wagon entier. La valise de tante Juliette fut épatante. Elle servit de siège, de table, d'accoudoir et même d'oreiller. On la considérait vraiment d'une utilité plus qu'enviable. D'une solidité incroyable, elle n'a jamais craqué. Enfin, ce fut Bruxelles. Ô Belgique, que de larmes versées. Un train de voyageurs fut amené, mais les colis à nouveau étiquetés restaient en partance. La semaine suivante, alors que je rentrais de l'école, il venait d'arriver à bon port. Cette fois, ma mère n'eut pas le temps de l'arrêter. Muni d'un passe-partout, papa fit sauter les serrures de l'increvable valise. Nous étions tous autour de lui, curieux, presque fascinés. En tirant sur des tissus, sur des papiers de soie, des débris de porcelaine apparurent au milieu de chapelets en grappe, des missels et un fatras d'imagerie. Mais des statuettes de saints et de saintes, tous miraculés, s'échappèrent à la suite comme par enchantement. « Je l'aurais bien parié !» s'écria papa, qui se retint de ne pas réceptionner le bazar d'un coup de pied. Le trio d'Isel rentra très longtemps après nous. Chacun finissait par ne plus y croire. Dès l'apparition de tante Juliette, la valise se renversa à ses pieds. Elle s'extasia de ses mains jointes. « Oh mon Dieu Seigneur, est-ce possible ?» Ensuite, ce sont les années de débrouille. 1943. Nous étions en pleine guerre. Le ravitaillement était très difficile, les adultes y pensaient à toutes les heures du jour et de la nuit. La débrouille était de premier ressort, que ne fallait-il pas inventer ? De chez nous à Florentville, fils ou fille était désigné celui qui se trouvait libre. Nous allions à Valensart, chez les sœurs de maman, tous les deux jours. Nos vieux vélos roulaient sans trop de peine, mobilisés qu'ils étaient à battre toute performance. Louis, notre frère, était passé maître dans l'art de soigner les pneus usés. La vulcanisation était faite d'une bande de vieilles chambres à air chauffées et collée par une presse électrique sur le pneu lissé à la meule Emery. Que de poussière de caoutchouc n'a-t-on pas ramassé dans l'atelier de papa ? La demande dépassait la possibilité, la grosse difficulté étant de trouver les chambres à air de camion ou d'automobile. Je viens faire rechapper mon pneu, mais je n'ai pas de caoutchouc. Au long des 5 années de guerre, la corvée ravitaillement me tomba régulièrement sur le dos, mais chacun considérait ce déplacement comme une bonne randonnée. Des immenses sacs en toile kaki reliquats de l'armée étaient accrochés au porte-bagages et deux autres au guidon. De chez tante Louise, nous rapportions des bouteilles de lait, un flacon de crème fraîche, des fromages frais, des fromages cuits. Tante Louise, qui ne perdait jamais rien et encore moins son temps, avait été réfugiée dans une ferme en Bourgogne durant la guerre éclair. Elle s'était mise au travail afin de rendre service et ne pas être en reste, mais elle s'appliquait sur quelques recettes de fromage. Dès son retour, elle fit preuve de son savoir. Aussi, très fameux étaient ses fromages. Les œufs étaient enveloppés dans du papier journal. Quant au surplus, en manière de boucher les vides, cela pouvait être un pain, des légumes, des fruits de saison, et la cochonaille en temps voulu. Le tout était gratuit, et le transporteur de corvée prenait un copieux maradé. Aussi, la déléguée du jour y allait de grand cœur. Pour ce, nous traversions Isel de bout en bout en passant devant la maison de tante Juliette. Parfois, une petite station nous était bien utile et puis, il fallait tout de même se dire bonjour de temps à autre. Ce jour-là, au retour, j'étais arrivée à Isel vers midi. Maman m'avait recommandé d'aller prendre les nouvelles de l'oncle Lucien très malade. La porte d'entrée était ouverte sur le soleil et j'allais directement frapper à la cuisine. 3 têtes penchées sur leurs assiettes se relevèrent avec surprise. Mais des 4 à se regarder, pas un ne dit mot. Était assis à côté de ma cousine, un jeune Florentvillois des plus connus dans mon quartier, Marcel Aubert. Que diable faisait-il là ? Dans ma tête d'adolescente, j'en fis tout de suite un prétendant pour ma cousine. Mais dans ce cas, pourquoi le trio affichait-il cet air fautif ? « Marcel, viens nous donner un coup de main », finit par dire tante Juliette, tandis que sa fille se levait d'un bond. « Viens, je te sers de la soupe ». J'ai desserré les dents pour répondre « J'ai mangé chez tante Louise, mais maman demande des nouvelles de mon oncle Lucien ». Marcel Aubert n'avait toujours pas relevé la tête, les 2 mains à plat sur la table. Tante Juliette s'empressa de répondre « Il dort en ce moment ». « Mais dis à ta maman qu'il ne va pas bien du tout et demande à ton frère de nous apporter de la glace ». C'était en effet une fâcheuse expédition pour soulager le mal de l'oncle Lucien qui souffrait d'un cancer de la gorge. Un des seuls endroits, et peut-être un seul remède où l'on pouvait trouver de la glace, était l'Hôtel de France à Florentville. Mais pourquoi ce Marcel n'y allait-il pas ? À la sortie, tante Juliette me retint fermement par les 2 bras. « Ma petite fille, ici aujourd'hui tu n'as vu personne. Tu ne sais rien du tout et tu gardes ça pour toi. Tu me promets pas un mot ?» La rougeur m'envahit d'une chaleur extrême. Oui, tante Juliette, en même temps, la réalité me sauta à la tête. C'est la guerre. Le plus drôle étant comment tante Juliette osait-elle abriter sous son toit un garçon qu'elle ne connaissait pas. Sans doute ne logeait-il pas là où L'enfermait-elle à double tour dans une chambre? Quant à moi, de ses deux yeux, elle avait scellé mes lèvres. Mon estomac se trouvait très encombré de cette bizarrerie. À devoir surveiller les charges sur mon vélo, le dérivatif se faisait, mais très mince. Un filet d'air. Je ne pouvais pas savoir que tante Juliette avait ouvert sa porte aux réfractaires. D'autres Maxets, d'autres Marcel se succéderont. Voilà, la suite à la prochaine émission de En Culture.
J'y crois pas comment je suis beau. I'm pretty, le mec parfait, zéro défaut. I'm pretty, putain que je suis beau. I'm pretty, I'm pretty. Je dédicace ce morceau au beau gosse que je suis. J'ai trop de sexe à pile, quand je me regarde parfois je jouis. Sur mon Facebook 52 000 photos de moi, touchant le cœur, le regard droit. Je finis même par plaire au gars. Tellement chaud qu'au supermarché les portes automatiques s'ouvrent. Je suis une bête, pas trop tard, je devrais avoir ma place au loup. Toutes les voitures me klaxonnent, même en meuf, je suis sûr que je suis bonne. Y'a peut-être un truc qui déconne, mais franchement, j'ai pas trouvé. Je suis beau, j'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain que je suis beau. Je suis beau, j'y crois pas comment je suis beau. Je sais que tu veux ma photo. Regarde comme je suis beau. De charme, voilà comment je les attire. Un tatouage tribal sur le bras, mes parents veulent que je leur tire. Je prends ma douche en slow motion, même si je perds un temps pas possible. Grâce à mon ex faux brosse Garnier, j'ai la police comme Starsky.
Grâce à ça j'ai la police. Grâce à ça j'ai la police.
Yeah, mon ego, je le vaux. Bien parce que je suis le plus beau. Muscule, abdos, fessiers. Mon cul, je l'ai mérité. Les autres mecs ne font pas le poids, je les laisse dans un sale état. Y'a un fossé entre moi et Michael Vendetta. Je suis beau, j'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain que je suis beau. Je suis beau, j'y crois pas comment je suis beau. Je sais que tu veux ma photo. Regarde comme je suis beau.
Dans mon petit jean moulant, je fais du sport, je me soigne, je mets de l'autobronzant. Non, je ne fume pas, je ne bois pas, je mange pas gras. Regarde le résultat, j'ai même pas besoin d'être grand pour faire du mannequinat. À cause de moi, tous les mecs se sentent mal dans leur peau. Toutes les filles que je croise explosent leur libido. Je suis trop beau pour être vrai, trop craquant et parfait. Les yeux d'une tasse peuvent se rhabiller, car c'est moi que tu vas déshabiller.
Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Le mec parfait, zéro défaut. Putain que je suis beau. Je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Je sais que tu veux ma photo.
Ben le moment est venu, hein, ça finit toujours par arriver un moment dans l'émission, c'est de dire au revoir. Mais heureusement, on sait qu'on va se retrouver. Hein,
oui.
Ici une quinzaine de jours, et puis bon, il y a les rediffusions, il y a les podcasts aussi, si vous avez envie de réécouter des histoires. Alors ben voilà, je vous dis au revoir et je vous souhaite que tout se passe au mieux.
Je vous dis au revoir aussi, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir et n'oubliez pas de vous aimer vous-même. Ça aidera les autres à vous aimer tout autant.
Voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même.